Notre invité ce matin, Antoine Fatiga, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable national CGT des domaines skiables et des saisonniers. Le fonctionnement des stations et des remontées mécaniques risque d'être perturbé ce jeudi par le mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Combien de stations seraient concernées dans les Alpes du Sud ?
On a à peu près déposé une dizaine de préavis dans les Alpes du Sud, hein, que ce soit dans le 05, dans le 04, comme Varche, Montgenèvre, par exemple, ou la Faudalos, vous voyez. Ça va, nous on espère qu'il y aura une bonne mobilisation.
En quoi l'allongement de la durée de cotisation va impacter plus lourdement les saisonniers ? Parce que c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui.
Il faut voir que l'ensemble de la réforme, c'est pour taper sur les plus précaires, les plus pauvres. Et encore plus quand on est à contrat court, puisque aujourd'hui, si la réforme passe, nous n'espérons pas, il faudra avoir travaillé 44 années pleines pour toucher quelque chose de 1 200 €. Un saisonnier, lui, n'arrive jamais à une année pleine, parce que de fait, il travaille sur la saison, donc il arrive à valider 1-2 trimestres. Donc on comprend bien qu'en validant 2 trimestres, il faudra qu'il travaille 2 fois plus, c'est-à-dire 88 ans, donc il y en a peu qui vont y arriver. Enfin, bon, même si l'espérance de vie augmente, ça va quand même être... un peu difficile.
Oui, mais là, c'est justement une question qui se pose. C'est le régime des saisonniers qui pose question, vous le dites. Ils cotisent pendant 1 à 2 trimestres. Ça veut dire que pendant un autre trimestre, ils ne cotisent plus. Ça fait un trimestre sans rien. C'est peut-être là, déjà, qu'il faut regarder.
Oui, alors ça, c'est aussi lié à la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'avant 2017, quand vous étiez saisonnier, pendant les périodes d'intersaison, vous pouviez toucher le chômage. Et donc, de fait, vous validiez vos trimestres de cotisation pour la retraite. Ce qui faisait que vous arriviez plus ou moins avec des trop perçus à une année pleine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque la réforme de l'assurance chômage fait qu'il faut avoir travaillé 6 mois pour pouvoir toucher quelque chose. Donc, peu de saisonniers y arrivent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, vos indemnisations sont très diminuées, puisque, je le rappelle, le bureau de l'UNEDIC a bien confirmé qu'il y avait 2 600 000 salariés qui avaient été sortis de l'assurance chômage avec les dernières réformes. Donc, vous avez raison. Il faudrait refaire à la fois qu'on revienne en arrière sur la réforme qui est proposée par rapport à l'assurance, par rapport à la retraite, et puis en même temps revenir en arrière sur la réforme de l'assurance chômage.
Je vais quand même repréciser.
Les précaires sont les plus à se mobiliser dans cette affaire-là. Quoi.
Je vais quand même repréciser ma question. Le sens de ma question, c'était de dire, est-ce que selon vous, il n'y a pas des efforts à faire pour que les saisonniers travaillent plus longtemps à l'année ?
Non, mais alors c'est un autre volet de la démarche qui est lié aussi à l'avenir des stations, au modèle économique avec le manque de neige, alors qu'il y a moins affecté les Alpes du Sud. Mais si on prend sur l'ensemble des massifs, aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose de comment est-ce qu'on allonge la durée de la saison pour pouvoir travailler plus, être plus indemnisé. Mais ce n'est pas le sens que prennent à la fois les employeurs ni le gouvernement, puisque on le voit bien, d'ailleurs, les conséquences dans beaucoup de massifs. Les gens ont plutôt tendance à délaisser la neige, en termes de salariés, je parle bien, oui. À délaisser la neige et à délaisser la montagne, puisque les dernières enquêtes INSEE sur le recensement de la population font bien voir que nos stations perdent plutôt des habitants, des habitants historiques qui étaient là. Quoi.
Ça veut dire que la montagne, aujourd'hui, n'est plus un modèle économique viable, en tout cas n'est plus appelée à être un modèle économique viable.
N'est plus pour pouvoir justement permettre aux gens de vivre et travailler au pays.
Pour vivre
aussi,
à l'année.
Bien sûr, la question de l'habitation, du logement, du coût du mètre carré, du coût du foncier, qui fait que on a un phénomène un peu bizarre, c'est-à-dire que les gens qui étaient à la ville ont découvert qu'avec le télétravail, ils pouvaient aller télétravailler en montagne, donc ils ont fait grimper le prix du foncier, et en même temps, les gens qui travaillaient n'ont plus les moyens de s'acheter quelque chose, et avec l'assurance chômage et avec ce qui se préfigure pour la retraite, préfèrent descendre dans la vallée pour trouver peut-être un travail des fois moins payé en termes de salaire mensuel, mais plus régulier en termes de revenus.
Alors, on parle beaucoup des stations, des coûts de l'électricité, on va y revenir. Avant cela, j'aimerais vous lancer sur l'inflation aussi. Combien de saisonniers ont vu aujourd'hui leur situation empirer, en sachant que les salaires les plus bas ont eu ou ont vu une revalorisation de 7%.
Oui, alors, il faut voir qu'en montagne, on a estimé que le coût de la vie a augmenté à peu près de 12%. Donc, on voit qu'il y a un delta important aujourd'hui. Et les négociations qui ont eu lieu dans les stations, on faisait le point justement à la formation des remontées mécaniques et des pistes, on a eu plus de 40 délégués, ça tourne autour de 6-7% d'augmentation. Donc, on voit que là, c'est aussi un phénomène qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont chercher ailleurs. Parce que quand on est tout seul, c'est déjà difficile, mais quand on n'est qu'une famille et des enfants, c'est encore plus compliqué.
Je vous le disais, la saison de ski cette année est marquée forcément par la flambée des coûts de l'électricité. Des choix douloureux ont été pris, par exemple à Montclar, où on a décidé de fermer une partie du domaine la semaine, et je précise, hors vacances scolaires. Montgenève, comme les Ors, disent de leur côté, nous, on a anticipé. Ça veut dire que les autres n'ont pas anticipé ?
Non, ça veut dire qu'il y a eu des modèles économiques différents. Il y a, en fait, ce que nous disons, nous, au niveau de la CGT, c'est que les employeurs ont été bien servis et seront encore bien servis, puisque Elisabeth Borne, la première ministre, leur a dit que quoi qu'il arrivait, ils seront aidés au niveau de l'électricité. Ce qu'on déplore, par contre, c'est que pour beaucoup d'employeurs, la solution qui a été trouvée, c'est de faire peser cela sur les salariés, soit en réduisant la durée de la saison, ce qui était dans un certain cas, soit en n'embauchant pas les premiers saisonniers, hein, les primo, ce qui est quand même catastrophique parce que beaucoup se sont retrouvés à la rue alors qu'ils pensaient être embauchés. Et ça, c'est dans le cadre des remontées mécaniques. Mais dans le cadre de l'hôtellerie, par exemple, on assiste à un phénomène où les salariés ont été embauchés pendant les périodes de vacances scolaires de l'hiver et aujourd'hui sont dehors parce qu'il y a moins d'activité. Donc on voit bien que cette question de l'énergie pèse beaucoup plus sur les plus précaires que sur uniquement les employeurs.
Vous dites quoi, que les stations étaient suffisamment aidées pour faire face à l'augmentation de l'électricité ?
Oui, c'est ce que dit la Chambre régionale, la Cour des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont dit qu'ils étaient gavés d'argent public. Donc nous, on attend beaucoup à une redistribution. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir. C'est si
toutes les
tout
stations
monde
ont été gavées de subventions.
Travailler au pays, il faut absolument qu'on redistribue et la redistribution ne se fait pas.
Toutes les stations étaient gavées de subventions publiques.
Toutes les stations. Je dis pas toutes les stations parce que je n'aime pas faire des généralités, hein, mais la Cour des comptes a bien prouvé que les stations avaient été gavées. D'ailleurs, le secteur du tourisme a été le plus aidé en termes de d'activité économique lors de la Covid et le reste. Donc, on ne se fait pas de soucis pour nous, pour les employeurs. Quand on voit, y compris les excédents qui ont été faits par des stations de haute montagne qui ont eu beaucoup de neige au détriment des petites, là on se dit aussi qu'il y a une redistribution à faire. C'est ça qu'on veut dire. Voilà.
Une dernière question, Antoine Fatiga, sur un sujet très haut-alpin, mais c'est la liaison entre Vars et Risoul. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé geler les subventions tant qu'il n'y aurait pas d'accord trouvé entre les deux stations. Est-ce que c'est un dossier que vous avez entre les mains du côté de la CGT, des domaines skiables et des saisonniers ?
Non, nous n'avons pas le dossier, mais je veux dire de manière générale, ce qui est embêtant, et nous on a un dossier sur Flaine, dans les Alpes, c'est que aujourd'hui, il y aurait certainement une réflexion à avoir pour comment on peut aller en station sans brûler beaucoup de gaz à effet de serre. Je rappelle quand même que ce qui est le plus contributif, c'est quand la personne vient en station. C'est pas quand la personne est en station, là où on use 75% des gaz à effet de serre sont usés par justement les gens quand ils viennent en station. Et c'est ces sujets-là qu'il faut qu'on travaille. On peut remettre par exemple le train de nuit qui arrivait à Briançon. On peut aussi remettre un certain nombre de trains qui nous font arriver sans être obligé de venir en avion. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut qu'on travaille, et y compris d'ailleurs sur des liaisons, hein, qu'on appelle des liaisons de vallée, entre la gare et les massifs, ce qu'ont fait d'ailleurs très bien les Suisses. Les Suisses font ça en train. Nous, on devrait être capable d'y arriver.
Bon, là, je parlais de la liaison entre Vars et Risoul, c'est-à-dire le domaine skiable commun. Merci beaucoup, Antoine Fatiga, d'avoir été avec nous ce matin, responsable national CGT des domaines skiables et des saisonniers.